Moi, mon objectif avec Inga, la craquer et la revendre. Et je me dis, OK, comment je vais arriver à la revendre? Qui va me racheter? Et qu'est-ce qui va intéresser mon racheteur potentiel?
Inga est une marque d'éponge, d'essuie-tout lavable et réutilisable. Créée en 2022, la marque met un point d'honneur à utiliser des matériaux sourcés, recyclés et recyclables, ainsi qu'une livraison neutre en carbone. Aujourd'hui, Théo rencontre Benjamin Beer, fondateur et CEO de la marque. Ensemble, ils aborderont les origines de la marque, leur présence dans l'émission Qui veut être mon associé, ainsi que les difficultés pour intégrer la grande distribution.
Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Je suis Théo Lyon, le fondateur et CEO de Koudak, l'agence ads des e-commerçants, start-up et retailers qui veulent se digitaliser. Avec mon équipe de 50 personnes, on a eu l'occasion de bosser sur un certain nombre de problématiques différentes dans notre portefeuille client. On a des références assez variées, comme Gérard Varel, Fursac, Delsey, LegalStart ou Beanstalk, et bien d'autres. Et une fois par semaine, je reçois certains d'entre eux, clients ou pas, et je les cuisine sur leur stratégie de croissance online. On essaie d'aller le plus profond possible pour que vous puissiez en ressortir avec du concret, au point d'avoir envie de mettre en pause cet épisode pour aller bosser. Bon, évidemment, ne le faites pas. La seule bonne raison de quitter un épisode des Bruts e-commerce, c'est pour aller mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix, parce que ça me permet d'être plus crédible quand je demande à des belles marques de m'accorder du temps. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité du jour. Bisous les petits potes.
Bon, bah salut Benjamin.
Salut Théo.
Bienvenue dans les Bruts e-commerce. C'est un plaisir de te recevoir. Donc, tu es le cofondateur d'Inga. Alors, Inga, peut-être que pour les auditeurs, vous avez déjà entendu ce nom récemment, c'est normal, parce qu'ils sont passés dans Qui veut être mon associé, ça vous a un peu mis sur la map, parce que vous êtes une marque assez jeune. Donc, tu disais, c'est mi-décembre 2022
ouais.
que vous avez commencé, donc c'est la commercialisation.
Ouais, en gros, on a commencé en juin 2022 avec une campagne Ulule,
ouais.
et on a lancé notre site mi-décembre 2022.
Ok, d'accord. Et alors, du coup, je vais te laisser présenter un peu le concept d'Inga, l'histoire de la fondation, et puis après, on va faire comme d'habitude. L'objectif de ce format, c'est de savoir un petit peu comment est-ce que vous avez grossi, puisque vos chiffres sont assez impressionnants. Alors, je te laisserai en parler sur la première année de commercialisation, mais ça ressemble à une trajectoire assez de type fusée, comme on dit. Donc voilà, écoute, je te laisse présenter Inga, et à toi de jouer.
Écoute, bah déjà, j'espère que l'avenir te donnera raison sur la fusée. Inga, en gros... Le plus important pour nous, c'est ce que j'appelle souvent la plateforme de marque. Et la plateforme de marque, ça part de notre mission, qui est de donner envie de passer du jetable au durable à monsieur et madame tout le monde. Et donc ça, on le fait avec des produits ménagers lavables, en l'occurrence des éponges et des essuie-tout, toute une gamme de produits. Et notre créneau et ce sur quoi on essaye d'appuyer, c'est l'efficacité, la praticité, la durabilité et l'économie.
Ok. Et
voilà en quelques mots, Inga.
D'accord. Et donc, c'est pas ta première boîte, il me semble.
Non, j'avais une boîte avant qui s'appelle Culture in the City et qui fait des coffrets cadeaux dans la culture et que j'ai revendu à Wonderbox.
Ok. Et alors bon, écoute, est-ce que tu peux nous faire la transition entre le moment où tu as arrêté cette boîte-là
ouais.
et le lancement d'Inga, d'où ça vient et quel est un peu et comment tu es arrivé au concept
ouais.
des éponges et tout.
Et ben en gros, j'ai partiellement vendu Culture in the City mi 2020. Je suis parti opérationnellement en décembre 2020. Je m'étais dit, je vais me donner un mois où je vais kiffer ma vie, rien faire comme t'as rarement le temps de faire. Donc, en janvier 2021, deuxième confinement, j'avais super bien choisi mon moment. Donc, j'ai rien pu faire. Et ensuite, je me suis dit, j'ai un mois pour trouver mon prochain business. J'avais plein d'idées. Et parmi ces idées, je m'étais dit, tiens, ça vaudrait peut-être le coup de lancer une boîte consumer en rapport avec une boîte à impact responsable. Du coup, j'ai regardé tous les produits qui existaient. Et j'ai identifié un segment de marché justement sur ce qu'à l'époque j'appelais les papiers ménagers lavables, où j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui se vendaient, notamment sur Etsy, mais qui avait aucune vraie marque établie. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va creuser. À l'époque, j'avais une personne qui m'aidait niveau stratégie marketing, mon ancien directeur marketing de mon ancienne boîte qui aujourd'hui est directeur marketing actuel. On s'est dit, on va faire un petit test à l'arrache. Où, en gros, en un mois, on a lancé une campagne Ulule, un Shopify, juste un produit, un essuie-tout lavable, juste pour comprendre le marché. On a eu une validation qu'on attendait et du coup, on a décidé d'accélérer. Et on a accéléré donc, en allant chercher un autre associé, Christophe, sur la partie digitale, en construisant une vraie plateforme de marque, celle dont je t'ai parlé, en élargissant la gamme avec éponge et coton à démaquiller et mouchoir, qu'aujourd'hui, on met un peu en retrait. Mmh. Et on allait lever des fonds. On a fait ça, on a accéléré, on a mis beaucoup d'investissements sur la marque qui je pense aujourd'hui paye ses fruits et on a lancé cette campagne Ulule en mai-juin 2022 où on a explosé tous les records. On a fait près de 500 000 euros sur la campagne Ulule et puis derrière on a lancé notre site en décembre.
Ok. Qu'est-ce que tu appelles les investissements sur la marque?
Alors c'est faire un gros développement de plateforme de marque.
Ouais.
Plateforme de marque, c'est un petit peu effleuré le truc, mais c'est en gros, c'est une équation pour moi où tu te dis, OK, j'ai un produit, des produits ménagers lavables, je vais les vendre. Tu pars de là. Première question, à qui je vais les vendre? C'est-à-dire qui est ma cible? deux hypothèses sur des produits ménagers lavables, soit des écolos, soit monsieur et madame tout le monde. En fonction de ta cible, tu vas pas faire la même marque et tu vas pas faire les mêmes produits. Évidemment, on a choisi monsieur et madame tout le monde, un, parce que ça a plus d'impact environnemental de vendre des produits jetables à quelqu'un, à des produits lavables, pardon, à des gens qui jettent qu'à des gens qui ne jettent pas. Et deux, le marché en termes de business est beaucoup plus gros. Donc, une fois que tu as ça, tu as un peu, on va dire, l'équation de comment je vends des produits lavables et durables à tout le monde. Et c'est là qu'arrive ta mission qui est de donner envie de passer du jetable au durable.
D'accord. Alors, là, moi, juste une petite question là-dessus, parce que instinctivement, comme ça, et d'expérience, j'aurais plutôt dit que, tu sais, les gens disent comment faut, enfin, souvent les marques qui ont très bien fonctionné, ces fusées dont je parlais, elles ont commencé à avoir des petites niches, tu vois, donc les écolos seront peut-être des early adopters. Toi, vous, dès le démarrage, vous avez dit non, pas du tout, on va faire du mass market.
Ouais, mais parce que, en fait, moi, n'importe quelle personne qui veut lancer une boîte et qui me demanderait un conseil, je lui poserais avant tout la question de c'est quoi ton objectif avec cette boîte? C'est quoi ton objectif, toi, personnel? Parce que pour moi, il faut toujours partir de l'objectif personnel. Moi, mon objectif avec Inga, dès le début, c'était de prendre une boîte pendant 7-8 ans, la craquer et la revendre. À partir du moment où j'ai ça et que je sélectionne mon marché, je me dis, OK, comment je vais arriver à la revendre? Qui va me racheter? Et qu'est-ce qui va intéresser mon racheteur potentiel? Moi, j'identifie que mes racheteurs potentiels, il y en a 8, 9, et c'est des groupes industriels qui sont déjà dans le secteur ménager. Là, je vais presque à la toute fin déjà, mais eux, ils sont, OK, ils sont sur le secteur ménager. À qui s'adresse? S'adresse au mass market. Et moi, si je veux les intéresser, il faut que je sois mass market. Et après, il y a aussi un côté très business où, avec la petite expérience que j'ai, quand je monte une boîte, je regarde quand même le marché auquel je m'adresse. Si le secteur du ménager, si le marché auquel je m'adresse, il pèse, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 30 millions, putain, faut y aller pour aller faire de l'oseille. Parce que ça veut dire que pour faire une vraie belle boîte, il faut que j'aille chercher au moins 50% de part de marché. Je t'adresse au mass market. Bah, le mass market, il va faire quoi? Il va faire 2, 3 milliards. Bah, tu vas chercher ne serait-ce que 1%. C'est beaucoup plus accessible. Et excuse-moi, mais l'autre point aussi, c'est qu'on s'est dit, si on s'adresse au mass market, ça ne nous empêchera pas de toucher aussi potentiellement les écolos.
Ok, d'accord. Parce qu'en fait, souvent, tu te dis instinctivement que la niche sera plus facile à conquérir que ce mass market sur lequel, en fait, je pense que tout le monde a un peu ce raisonnement-là. Le marché est plus grand. Ça va intéresser plus les industriels, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a plus de barrières à l'entrée. Donc, faut être quand même être confiant de s'imposer face à beaucoup plus de concurrence.
Ouais, mais en fait, si tu veux, déjà, on s'est lancé sur un produit, il y avait personne.
Ouais.
C'est-à-dire, cite-moi une marque d'éponge lavable ou d'essuie-tout lavable. Il y a plein de toutes petites marques, il y a plein d'artisans qui le font, mais t'as pas une vraie marque. Donc, déjà, on est les premiers à aller dessus. Sur le lavable, on s'attaque à un marché qui est du jetable. Et j'ai un directeur marketing qui est vraiment un tueur. En gros, pour name dropper, j'ai pas donné son nom, mais c'est l'ancien directeur marketing France d'Innocent. C'est lui qui a co-créé la marque Innocent en France. Donc, il connaît bien la grande distrie. C'est des problématiques qu'il connaît bien. Et ça nous a beaucoup aidé. Et c'est cette marque et cette plateforme de marque dont je te parle qui, pour moi, est à l'origine de beaucoup de nos succès. Parce que ça a été pensé, justement, sur, je reviens, le comment donner envie. Et donc, c'est ça qui crée on s'est dit, bah, il faut donner envie, donc créer un univers coloré, surtout pas culpabilisant, un peu décomplexé, fun. Et tu t'attaques au produit de qu'attendent les gens de produits ménagers. Ils attendent avant tout de l'efficacité. C'est simple, hein, on allait prendre les sondages faits par LSA. Et les gens, ils attendent un, de l'efficacité, deux, de l'économie, trois, de la praticité et quatre, de l'impact. Et donc, ça, c'est nos fondations. Et toute notre priorité, c'est de faire un produit efficace et qui dure longtemps, parce que s'il dure longtemps, il va être économique.
Ok. Et alors, moi, je m'interroge sur pourquoi est-ce que les acteurs historiques n'avaient pas réussi à adresser cette verticale de marché.
Alors, je vais faire juste une parenthèse et un parallèle avec ma première boîte. Donc, ma première boîte, c'était des coffrets cadeaux dans la culture. Et à un moment, j'ai voulu lever des fonds, je suis allé voir Wonderbox. Au début, je ne voulais pas aller les voir. Je m'étais dit, mais non, mais je suis un fou. Si je vais les voir, ils vont me copier. Mmh. Et puis voilà. Non, ils ont préféré investir chez moi alors que je faisais 120 000 euros de chiffre d'affaires quand ils ont investi chez moi, c'était le bout du monde. En fait, ils se sont rendu compte que j'avais réussi à craquer un petit truc que eux n'avaient pas réussi à craquer et que surtout, bah, ça leur demanderait moins de temps et moins d'argent de me faire développer à moi le truc que de le développer eux. Bah, c'est un peu la même chose, je pense, chez les gros industriels. Un, ils n'ont pas forcément la flexibilité et la souplesse pour lancer ça. Deux, ils n'ont pas forcément l'approche. Et trois, surtout, il y a un côté légitimité. Ça, c'est un des mecs à mon board qui était très bien placé chez Procter et maintenant qui est chez Mondelez, qui m'a dit, bah, en fait, des gros groupes comme nous, on nous reproche toujours notre côté non-impact. Et si on va lancer une marque green, on va toujours aller nous reprocher de faire plus un coup de pub.
Bah, donc, ils ont abandonné, en fait.
Bah, je sais pas s'ils ont abandonné, mais je pense qu'ils ont plus intérêt à me racheter que à aller le faire eux-mêmes. Pour plein de raisons.
Ok, d'accord. Et donc, toi, tu parlais juste avant que je te coupe de la plateforme de marque. Peut-être que tu peux continuer là-dessus. Parce que tu disais, qu'est-ce que...
Et ben, en fait, j'ai presque fini. Hein. C'est simple, c'est une équation simple. Mais donc, c'est je vends à monsieur et madame tout le monde des produits ménagers lavables. Comment je leur donne envie, ma mission, donner envie. Et donc, avec des produits efficaces, durables, pratiques et économiques. C'est con, on s'est dit en 30 secondes. Mais en fait, si tu ne te poses pas cette question au départ, tu fais fausse route. Je te donne l'exemple sur notre produit star, l'éponge. L'éponge, avant de faire cette plateforme de marque, on était persuadé qu'on la ferait en matière naturelle. On était sûr, c'est évident, on est une boîte à impact. On ne va pas utiliser du polyester, c'est-à-dire le polyester, c'est un dérivé de pétrole. Ça n'a pas de sens. Sauf que, en même temps qu'on faisait le travail de plateforme de marque, on achetait tout ce qui existait sur le marché, on testait tout ce qui était possible en matière naturelle. On s'est rendu compte que on n'arriverait pas à faire un truc efficace et un truc durable. Okay. Et quand on a fini la plateforme de marque et qu'on s'est reposé dessus, on a vu, il n'y a pas le mot écologie, il n'y a pas le mot naturel. Il y a juste efficace, durable, pratique. S'il faut du polyester pour faire quelque chose d'efficace, durable, pratique, on fera du polyester. Et nos 18 mois de recul, je pense, nous ont donné raison parce qu'on fait des ventes de ouf sur des éponges. Et surtout, les gens, ils kiffent nos produits. Quand on a, sur notre site, on a 4,8 sur 5 sans tricher. Et sur Choose App, on a 4,9 sur 5 avec, je crois, on doit en être à 6 ou 7 000 acheteurs sur nos 2-3 ventes sur Choose App.
Okay.
Donc, on a eu raison là-dessus. Et en fait, le fait d'avoir fait cette plateforme de marque fait que tout ce qu'on fait, tout, est toujours fait en prenant comme ces 5 commandements, j'ai envie de dire, et en se rapportant à ça. Ça fait qu'il n'y a pas de prise de tête et qu'il y a une cohérence globale. Et dans mon ancienne boîte, je n'avais jamais fait ça. Quand on n'avait pas du tout fait ça, il n'y avait pas de cohérence, les choses allaient dans tous les sens et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment capital, je pense.
Ok. Vous avez commencé du coup par la vente en ligne.
Ouais.
Mais à la fois, ce n'est pas non plus, on en parlait avant de démarrer les caméras, ce n'est pas ta vision finale. Inga n'est pas une D2C au sens
propre. Factuellement, aujourd'hui, elle l'est. Ouais. Mais dans ma vision, non. Ma priorité, c'est le... À moyen long terme, c'est la grande distrie pour deux raisons. Un, on revenait à l'objectif final. Mon objectif, c'est de me faire racheter. Je pense que mes racheteurs potentiels, ils sont en grande distrie. Pour les intéresser, il faut que j'aille leur bouffer des parts de marché, des parts de linéaire. Et l'autre point, c'est aussi un point très pragmatique. C'est 85% du marché de mes produits, il est en grande distrie. On revient au point que je te donnais tout à l'heure, mais... Si 85% du marché est en grande distrie, allez, peut-être que dans 5 ans, il sera à 80%. Mais autant aller se battre là où il y a le marché et là où les gens vont acheter. Et puis après, excuse-moi, il y a un autre point, c'est l'omnicanalité. Je crois qu'on va en reparler. Mais pour moi, c'est très vertueux et chaque canal sert l'autre canal.
D'accord. Peut-être que tu peux un peu...
Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'il y a quelques années et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui disent non, moi, les boîtes grande distrie, je veux pas y aller parce que tu es dépendant à Carrefour et Carrefour, il te tord le bras et puis après, tu meurs. Mais on parle des DNVB ou qui sont complètement dépendantes à Meta. Si tu as un bug Meta, nous, on a eu un bug Meta 4 jours après qui veut être mon associé. Pendant 10 heures, il y avait pas d'ads, mais c'était panique générale. Et donc, en fait, sur les DNVB aussi, tu as des énormes dépendances. Et pourquoi je dis que ça... les uns servent les autres, c'est que tu as beaucoup de gens qui voient nos produits, qui connaissent et qui se disent « Tiens, je veux acheter », mais qui n'achètent jamais en ligne. Quand ils nous voient en magasin, ils font « Ah bah tiens, c'est l'occasion d'acheter ». Ça leur permet de toucher, ça leur permet de faire plein de choses. Et inversement, le fait de voir une marque en grande distrie, ça donne de la légitimité. Et donc, en donnant de la légitimité, quand ils te reverront sur Internet, ils permettront d'acheter. Il y a un truc qu'on dit, je crois que c'est avant d'acheter une marque, en tous les cas, historiquement, avant qu'il y ait les ads sur Internet, qui fait que les gens passent 2-3 minutes avec une marque avant de l'acheter, il fallait que la marque, je crois qu'elle soit vue 10 ou 15 fois avant d'être achetée. Pareil, le fait de voir à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, ça te permet de rentrer dans la tête des gens, ça donne de la légitimité. Et après, c'est des business models différents, mais qui se complètent bien, je trouve. Et puis, ça, surtout, c'est pas dépendant.
Le problème de ces marques jeunes dont vous faites partie, c'est que... Certes, c'est cool parce que tu vas être moins dépendant d'un canal, mais par contre, tu vas être un peu obligé de diffuser tes efforts face à des boîtes qui, eux, ont à peu près 10 fois ton équipe sur chacun des canaux qui traitent.
Ouais.
Donc, ça rend compliqué le fait d'être... En fait, tout ce que tu racontes est très contre-intuitif par rapport, je trouve, à, par rapport à plein de marques que j'ai reçues dans ce format les boutiques commerce, qui se disent je vais prendre un truc, je vais le faire super bien. Ouais. Typiquement 900K, Emeric qui était à ta place, il disait mais j'ai arrêté YouTube, j'ai fait que du méta. Toi, t'as, alors parce qu'on va en parler ensuite, on va détailler chacun des canaux, mais t'as ton social, t'as du Google, t'as Amazon et la grande distrib.
Ouais.
En fait, au quotidien, quand tu fais ta strat, tu fais ton plan trimestriel, comment tu t'organises?
Je contourne ta question pour y répondre,
ouais.
Mais mes deux gros plus gros succès, j'ai envie de dire, c'est ma plateforme de marque dont je t'ai parlé et ouais. Mon équipe. Le truc sur lequel j'ai tout de suite voulu investir, c'est l'équipe.
Vous êtes combien?
On est 11,
ouais.
Mais je considère avoir 4 piliers dans mon équipe. Mon directeur marketing, qui est un tueur qui coûte très cher. Christophe, Head of Digital, grosse expérience. Il a fait une petite école que tu connais peut-être qui s'appelle HEC.
Ouais.
il a fait 8 ans chez 55, donc tueur en digital. Marion, directrice produit, une ingénieure textile, donc une tueuse sur le produit. Autre parallèle aussi, mais en tout cas dans les DNVB qui peuvent faire des produits proches des nôtres, il n'y en a aucun qui est un ingénieur textile. Et 4, Alban, mon directeur commercial qui vient de chez Procter, qui a fait 10 ans chez Procter.
Ouais.
Et en fait, exactement comme tu me disais en off tout à l'heure te concernant, c'est on a des business units en fait. J'ai Marion sur tout ce qui est lié au produit, Christophe sur tout ce qui est lié au digital, Alban sur tout ce qui est lié au retail et Thibaut, un peu périphérique parce que le marketing touche à tout. Et il a lui-même une très grosse expérience en retail. Et donc en fait, ce que je dis, c'est Alban, t'es le chef du digital. T'es le chef du retail. C'est ton bébé. Ils ont tous des parts, certains plus que d'autres parce qu'ils sont arrivés plus tôt et ont fait plus de sacrifices. Bref, mais c'est chacun a son bébé. Et est le boss de sa propre business unit.
Mais comment t'as assemblé une équipe comme ça?
Eh ben, j'ai essayé de leur donner envie. Non, le point, c'est que je pense que... déjà, j'avais mon expérience. Quand t'arrives et que tu dis, j'ai monté une boîte multicanal, B2C, ça te donne un peu de légitimité.
Tu les connaissais pas avant, tous ces gens-là?
Thibaut, directeur marketing, si. Tous les autres, non.
Okay.
Christophe, je l'ai démarché sur LinkedIn. Marion, elle a candidaté. Et c'est un alignement d'étoiles parce qu'elle revenait à Paris pour rejoindre son conjoint et tout. Et Alban, je l'ai démarché. J'y suis allé pour démarcher mon DIRCO. Okay. J'ai passé 8 mois pour recruter mon DIRCO. Mais je savais ce que je voulais. Je voulais un mec d'un top 3, top 4, qui avait au moins 8-10 ans d'expérience.
Top 3, top 4
industriel. Donc en gros, je voulais quelqu'un qui venait de Procter, Unilever, Coca, Pepsi.
Ok.
L'Oréal. On va pas les oublier. On sait pas.
D'accord. Et t'avais l'impression que ça pourrait pas marcher avec quelqu'un qui était pas dans...
Le truc, c'est que j'avais moi-même l'expérience de la grande distri. J'avais fait 4-5 ans de grande distri dans mon ancienne boîte. J'avais vu Wonderbox qui, eux, avaient beaucoup plus de grande distri. Et c'est un truc qui s'invente pas. Même moi, qui avais fait 4-5 ans de grande distri, je me sentais incapable de gérer la grande distri. Ouais. Et je voulais, en fait, quelqu'un qui avait été dans la meilleure école. Et aussi parce que je veux un tueur par business unit. C'est-à-dire que je comprends ce que tous font, mais ils le font tous bien mieux que moi.
Juste sur ce segment, du coup, quand on distribue, tant qu'on en parle,
ouais.
Quelle expertise t'a apporté, du coup, cette personne dans ton équipe et qu'est-ce que t'aurais pas pu...
Tu vois, Alban, il est arrivé le 1er juin. Et en gros, son objectif, c'était que là, en Q1, on soit dans des enseignes. Premier mois, il a fait un truc, c'est qu'il a fait un audit d'Inga et il a cassé plein de trucs pour reconstruire plein de trucs.
T'as des exemples?
Les pricing, ils sont pas bons.
Ouais.
On va changer les prix. Donc, on a changé les prix. Thibaut est arrivé un mois avant opérationnellement. Parce que Thibaut, le marketeur, il était que stratégie au début. Il est arrivé opérationnellement un mois avant. Tous les deux, ils ont dit, les fourreaux, ça va pas. Les fourreaux, c'est ce qui entoure nos produits. On va refaire les fourreaux. On a fait un petit changement de branding. Quand je dis de branding, c'est les couleurs, les polices et la manière dont sont faits les logos de nos produits. Parce que chaque produit est starifié.
Dans quelle optique? Pour que ça ressorte bien en
retail,
rayon.
Exactement. Okay. Pour que ça ressorte en retail, que ce soit compréhensible, que ça donne encore plus envie. Donc bref, un mois à challenger plein de choses. Et puis ensuite, mis en place son plan, contacter les gens. Et là, 7 mois plus tard, on rentre dans 3 enseignes. Et okay. La perf est ouf. Quoi, franchement, j'attribue au travail d'Alban et de Thibaut. Mais pour une boîte qui sort de nulle part, avoir un contrat national avec Cora où on va avoir un emplacement hallucinant, tous les Monoprix de France et 60 Leclerc, c'est très très fort.
Et parce que qu'est-ce qu'attend un distributeur d'une D2C qui arrive tu dis pas le packaging, avoir la place pour l'acheter au bon prix?
En fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est de dire aujourd'hui, le marché, il est comme ça. Les consommateurs, ils sont en attente de ça. Et nous, bah, on est la meilleure solution pour leur proposer ça.
Donc, tu arrives avec un pitch, en fait, en disant...
Ouais, exactement, clairement. Un pitch que Alban a préparé, mais c'est la même chose. Il faut convaincre. Il faut le convaincre et lui donner envie de te tester et de prendre le risque.
D'accord.
Et après, on est aussi sur un avantage. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, on est les seuls à s'être dit, on va vraiment mettre de l'oseille et on va vraiment investir pour faire des éponges lavables. Tu vois, regarde, tu veux être mon associé, je crois que tu en as deux, des jurys qui disent les éponges, quoi, franchement. Mmh. Et c'est vrai, mais c'est magnifique parce qu'en fait, on arrive dans un marché où il y a un acteur, en fait, un seul vrai acteur, un petit hérisson. Après, tu as de la MDD, tu as des marques qui ont très peu. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est plus facile d'émerger là où tu as un mec que là où tu en as 7, 8. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord, donc c'est le positionnement de la boîte aussi.
Il y a aussi ça, ouais, bien sûr.
Parce qu'en gros, je me mets à la place, tu vois, des auditeurs qui ont plein de D2C et qui se disent, bon, t'as super, je vais faire comme Benjamin, je vais attaquer la grande distrib comme ça, mais ils vont pas avoir ce positionnement produit que vous avez, vous. Effectivement, il y a 40 autres personnes qui font leur...
Bien sûr, bah, tu prends les liquides vaisselle. Ouais. Il y a une marque de liquide vaisselle, il y en a des tonnes. Et donc, bah, je pense que c'est plus facile parce que qu'est-ce qui va être intéressant pour le distributeur? C'est un, bon, on apporte potentiellement une plus grosse marge, on apporte des produits différents et surtout, il est face à un seul acteur. Si demain, il a un autre mec qui commence à venir peser, bah, ça lui donne plus de poids dans sa négo face à son plus gros acteur. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord, mais ça, c'est plutôt du coup à ton avantage à toi.
Mais aussi à l'avantage du distributeur. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes la marque dont je parle, ouais. D'éponge, que tout le monde connaît.
Ah d'accord, tu veux dire que t'es une... Ok. Donc, c'est-à-dire que le poids de dire je suis en relation commerciale avec Inga, il va pouvoir aller voir la marque Horizon.
Tu vois, nous, on a un objectif de part de marché dans nos enseignes. Si à la fin de l'année, on fait ces parts de marché, ça veut dire, ça montre à mon distributeur que je pèse et que je peux beaucoup plus peser.
Mais donc, au point de déranger une marque commerciale depuis longtemps.
Parce que l'enseigne, en fait, t'as les parts de linéaire, donc combien de facings t'occupes sur l'ensemble du rayon,
ouais.
Et les parts de marché. Quelles sont tes parts de marché? Ce qu'on dit usuellement en grande distrib, c'est PDL, donc part de linéaire égale part de marché. Plus t'as de linéaire, plus t'es visible,
okay.
Plus t'as de ventes. Moi, aujourd'hui, je débarque. Donc, naturellement, mon concurrent, il va avoir moins de linéaire, donc moins de facing, et théoriquement, moins de ventes. Si jamais le distributeur, il se rend compte que, en fait, mes parts de marché, elles sont égales, voire supérieures à mes parts de linéaire. Il va se dire, tiens, je vais tenter d'élargir, surtout que nous, on fait une très large gamme d'éponges, on innove beaucoup, et dire, je vais référencer ces nouvelles gammes. Donc, l'autre, avec qui il n'avait pas de point de négo avant,
d'accord.
Il va lui dire, mec, en fait, tes conditions, je ne vais pas forcément te les accepter parce qu'aujourd'hui, j'ai un autre concurrent qui vient m'apporter un nouveau chiffre d'affaires.
Okay.
Et donc, ça lui donne un poids dans sa négo.
Donc, tu conquiers le rayon, quoi.
En tout cas, moi, c'est mon défi.
Ok.
Notre défi. Et il y a ça aussi, tu vois, en grande distrib, qui a un côté challengeant que tu as moins en digital, c'est que le rayon, il est limité.
C'est ça.
Et tu pars à la guerre. Et tu pars à la guerre de, je fais 15% aujourd'hui, non, mais c'est un but, je fais 15% des éponges. C'est-à-dire 15% des éponges achetées dans les magasins, c'est les miennes. Et il y a un vrai côté challenge, défi. Et si tu regardes les commerciaux dans les gros groupes, t'as beaucoup de sportifs ou de mecs parce que t'as du challenge, qui est différent du digital.
Et donc là aujourd'hui, dans le rayon, tu disais, il y a pas beaucoup de marques. Genre le premier acteur, il prend combien? Enfin déjà des facings, parce que j'imagine que les parts de marché, tu sais pas. Mais
ouais, en fait, ça dépend vachement parce que tu vois, t'as des rayons qui font genre 60 cm de large, et d'autres qui font 4 mètres de large.
Je parle en pourcentage de.
En pourcentage, en fait, t'as la marque qui, elle, on va dire, doit peut-être faire 50, 60%. Mmh. Tu dois avoir 25-30% pour de la MDD.
C'est quoi MDD?
C'est les marques distributeurs.
D'accord.
Par exemple, quand tu as une éponge Auchan.
Ok, très bien.
Ouais. C'est pas Auchan qui la fabrique, mais c'est sa marque. Et puis, tu dois avoir 10-15% d'autres marques.
Ok.
Mais c'est marginal, quoi. Et c'est encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est de s'attaquer à un marché où tu as peu de concurrents. Parce que tu sors plus vite ton épingle du jeu.
Ok, donc c'est surtout ça qui vous porte.
Il y a ça. Et puis un des défis qu'on avait aussi au début, et c'est aussi pour ça qu'on s'y attaquait, c'est dépoussiérer le monde du ménage. Ça, c'est notre super jeu de mots. Mais c'est se dire, c'est un rayon où tu te fais chier, où il n'y a rien, il n'y a pas d'émotionnel. Et c'est le défi de te dire, on va essayer de mettre de l'émotionnel et de donner envie avec des éponges. C'est rigolo comme challenge. C'est-à-dire, je vais donner aux gens l'envie d'acheter des éponges. Moi, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est quand les gens ils me disent, vous me donnez envie d'acheter vos éponges. C'est rigolo comme challenge.
Ok. Super intéressant. Donc aujourd'hui, rappelle-moi juste votre présence, dans quelle surface vous êtes vendu aujourd'hui?
Alors, on est en train de rentrer là chez Cora, Monoprix et Leclerc.
D'accord. Et le but, c'est d'être partout?
À moyen long terme, ouais.
Ouais, vous avez pas de positionnement particulier, parce que il y a certaines marques qui veulent pas les commercialiser, genre chez Franprix.
Bah, moi, je dis que je suis un vendeur d'éponges et que mon métier, c'est de vendre des éponges, et qui m'achètera mes éponges vendra mes éponges.
Ok, d'accord. Alors, vu que je connais pas du tout le monde de la grande distrib, est-ce que ça gêne un Auchan que tu sois chez Carrefour? Est-ce qu'il y a des dynamiques comme ça aussi?
Alors, tu peux avoir les anciennes bio, type Biocoop, Naturalia et tout, qui sont gênées que tu sois en grande distrib. Tu as les pharmacies ou les petits magasins indépendants que ça peut gêner. Mais une enseigne ne va pas te référencer parce que tu es chez une autre. Par contre, elle va peut-être pouvoir te dire « Ah bah ouais, mais moi j'aurais voulu être la première, nanana, alors accorde-moi une exclue, et voilà. » Mais non, tu vas pas ne pas... En tous les cas, une enseigne ne va jamais ne pas te référencer parce que tu es chez un de ses concurrents.
Okay.
Et au contraire, elle aura peut-être plus envie.
D'accord. Très clair. Alors reprenons, parce qu'on est passé très très vite sur le digital.
Ouais.
Donc faut quand même qu'on boucle ce chapitre-là. Aujourd'hui, c'est une part quand même qui est majoritaire de votre chiffre, on est d'accord. Ça a vocation à plus l'être très longtemps. Enfin, avec les années, du moins, ça risque de s'affaisser, selon les plans. Aujourd'hui, t'estimes que ce succès online, il vient de quoi, si tu devais le simplifier le plus possible? Tu vas alors t'expliquer pourquoi est-ce que les gens l'achètent en ligne.
La marque.
Ouais.
Le site.
Ok, tu peux
et les ads.
Ok.
Je rentre dans le détail.
Ouais, très
bon, la marque, on en a parlé.
On a
eu envie. Je pense qu'on a fait un beau taf. Le site, je pense qu'en tout cas, c'est les retours qu'on a. Je pense qu'il est assez clair, assez simple, assez rapide. Il n'y a pas de bug. C'est un bon Shopify, un bon Stripe. Quoi. C'est une bonne recette. En fait, Christophe, donc le Head of Digital, c'est un peu mon opposé sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir comme associé. Moi, je suis un instinctif, un impulsif. Et lui, c'est quelqu'un qui étudie et travaille. Il a benché. L'agence avec qui on a fait le site, ils sont inspirés de pas mal de sites US. Toujours un peu la même recette. Mais on s'est beaucoup inspiré de ce qui marchait et on a essayé de faire simple. Simple, efficace.
Sans que vous ayez pour autant de concurrents directs américains. Il n'y a personne qui fait exactement la même chose, ce qui est très rare.
Le site dont on s'est le plus inspiré, je crois que c'est un site qui s'appelle Byte. Je ne sais pas si tu le connais.
Ouais, les brosses à dents, enfin les dentifrices.
Ouais, exactement. On l'avait trouvé chambé, ce site. Et on s'est pas mal inspiré de ce site. Et après, Christophe, il est vachement dans l'itération, dans le test, l'analyse. On teste, on itère, tu vois, notre taux de conversion, c'est pas que lié à l'évolution du site, parce qu'il a fait que des petits peaufinages. Mais en 2023, je crois qu'on est passé de 2% en janvier, donc sur notre premier vrai mois, à 4 ou 5% en décembre.
D'accord.
Donc,
t'as un petit peu de détails là-dessus?
Je pense qu'il y a un peu d'évolution du site, et puis mieux cibler les ads, mieux cibler les gens qui viennent sur le site, plus de confiance aussi, parce qu'au début, on avait peu d'avis. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avis, la notoriété. Je pense qu'il y a une somme de beaucoup de choses.
D'accord. Si tu devais les organiser de façon, une pondération, quoi, genre les plus importants.
Je pense que c'est malgré tout, la manière dont on travaille les ads.
Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire,
je pense que les pubs sont beaucoup plus ciblées sur le produit.
Ouais.
Deux, on s'adresse peut-être à un public. Les gens qui viennent sont des gens potentiellement plus intéressés encore, je pense, qu'avant. C'est un peu lié, hein, mon A et deux. Trois, on a simplifié des choses sur le site. Quatre, on a plus d'avis. Et on est plus orienté vente, pas de superflu, pas de bullshit, pas de...
J'ai l'impression que c'est un process par lequel beaucoup de marques passent.
Ouais.
Ce truc de, on va faire un truc très inspirationnel, et en fait, tu t'en reviens, c'est simple.
C'est ça. Mais en vrai, ce qui est rigolo, et c'est un truc que j'essaie de jamais oublier, c'est que les trucs qui marchaient en marketing il y a 70 ans, eh ben ils marchent toujours. La promo, on va dire la vérité, ça marche, la promo. Les 3 pour le prix de 4 pour le prix de 3, ça marche. 3 pour le prix de 4, ça marche pas trop. Mais voilà, les trucs de base, ça marche. Il faut, je pense, adapter beaucoup au e-commerce. Ouais. Les trucs historiques.
C'est un nom, ça s'appelle la loi de l'Indie, d'ailleurs. J'ai découvert il y a pas longtemps. C'est que plus ça fait longtemps que quelque chose est là, plus il a de chances d'être vrai et de continuer à être vrai longtemps. Et je trouve que dans le marketing, d'ailleurs, c'est un peu un sujet à la hype, qui est très sensible à la hype. On est nouvelle technique, nouveau module de conversion Shopify, etc. Alors que ça, finalement, c'est pas parce que les gens savent qu'un procédé marche qu'il marche plus. Je peux te dire, en effet, que 3 pour le prix de 4, Ah, tout le monde le fait et tout, mais oui, ça reste 3 pour le prix de 4. Donc,
Mais quoi, je trouve la théorie très bonne. Ça fait 70 ans que ça marche, pourquoi ça s'arrêterait?
Voilà, c'est ça. Donc, et finalement, faut pas essayer de réinventer la roue, même si, et je parle en tant qu'agence, tu vois, souvent, c'est ce que les clients veulent, enfin, pensent qu'ils veulent ça. Donc, tu dois vendre des trucs incroyables. Et voilà, nous, la première étape, c'est d'expliquer, bon, bah, on va commencer par faire des fondamentaux.
Mais c'est vrai que quand tu démarres, t'as envie d'avoir le hack.
Ouais.
Tu veux trouver le hack. Mais c'est un mauvais truc. Tu vois, je pense pas trop en parler, c'est pas le sujet, mais souvent quand on m'a demandé comment vous avez fait pour faire la meilleure campagne Ulule, déjà c'était notre objectif. Alors aussi on a duré plus longtemps que d'autres, mais on avait juste mis toutes les best practices en place, tout ce qui avait marché chez les autres on l'a mis en place, et c'est ça quoi, c'est
carré, simple,
exactement. Focus, prioriser, ça c'est important,
et pas faire d'erreur. J'aime beaucoup ce que tu dis sur ton site, en Shopify simple, fonctionnel, bien.
C'est vrai.
Bien, faut faire les trucs. Ok. Parce qu'on oublie aussi souvent que faire les choses bien, c'est déjà pas faire d'erreurs.
Ouais, et t'en feras toujours, mais n'est pas trop grosse, quoi.
Il y en a beaucoup. Dans les AS, nous, c'est un principal truc qu'on fait, c'est quand tu reprends un compte, tu fais environ les erreurs classiques simples, t'as pas besoin de faire des trucs d'audience, mes couilles, correspondance automatique, etc. Tous ces trucs très avancés qui viennent compléter les stratégies fondamentales.
C'est ça, à partir de la base. Quoi. Ça marche partout, déjà, à partir des fondamentaux et de la base. Mm. Et en fait, là où il y a un truc, c'est que je pense que t'as. Souvent, on est aveuglé par des marques qui font des chiffres de ouf d'un coup. Et souvent, il y a des facteurs X dans des vraies fusées. Moi, je me considère pas une fusée. On avance bien, on démarre bien. Et tu as des boîtes, la première année, ils font des 6, 7 millions et tout. Et souvent, il y a des facteurs X que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de toujours revenir aux fondamentaux, parce que tu vas pas faire 7, 8 millions, mais tu feras 1 million, 1 million 5, ce qui est chambé pour une première année. Mais au moins, t'es sûr, quoi. Et à aller chercher le facteur X, t'as 90% de chance de faire pas beaucoup. Et si je dis 10% de faire beaucoup, je suis gentil en plus.
Mais sur ce sujet, facteur X, si je devais tracer une droite entre tous les gens que j'ai reçus dans les bruts e-commerce, je dirais qu'en 90% du temps, j'arrive pour leur poser des questions sur leur campagne, leur site, etc. Et je me rends compte que ce qui les différencie fondamentalement, c'est que c'est des gens qui ont soit mieux compris le client que les autres, soit fait un truc où il y avait juste, le produit est juste magique, il n'y a pas de concurrence, c'est une faille en fait magnifique d'un marché très grand, sur lequel il y a un sous-segment qui est sous-adressé. Et tu vois, je pense à Boku que j'ai reçu. Ouais. Boku, c'est un exemple parfait d'un truc, c'est bien brandé.
Ouais.
Le produit a un wow factor énorme qui fait qu'il est super compatible avec les ads. T'as pas d'acteur. Le truc, en fait, derrière, je peux, certes, te demander quelle audience t'as lancé dans tes campagnes Facebook, comment t'as construit ton site, etc. Mais tu peux pas, c'est très peu duplicable, ce truc-là. Et il y a de ça dans ce que tu t'expliques, en fait, toi aussi.
Moi, je suis d'accord, mais ils ont un facteur X, je trouve, Boku, qui est la qualité de leurs ads.
Ouais.
Quoi, leur contenu vidéo. Pour moi, ils sont hors catégorie, tellement que leurs ads sont ouf. Et je me rappelle les chiffres de leur première vidéo en termes d'acquisition de CTR, de ROS, c'était des chiffres genre, je pense que n'importe qui verrait ces chiffres se dirait c'est bon, j'arrête le e-commerce. Quoi.
Ouais. Et à la fois, c'est marrant parce qu'on en parlait avant, mais je pense pas qu'ils auraient pu faire des pubs aussi incroyables si le produit n'avait pas été.
Ah non, c'est sûr. Ils ont pour tout le cul, bien quoi. Et ils ont en plus. En fait, je pense que. Le même produit, la même marque, avec des ads, avec pas le même niveau d'ads, ils font 1 million, 2 millions. Et là, leurs ads, c'est, je les trouve incroyables.
Ouais.
Incroyable.
Ouais, écoutez, ce sujet, c'est pour ça. Mais c'est important que tu le réclarifies souvent. Enfin, commençons par faire les fondamentaux et pas négliger cette première étape de plateforme de marque qui, en fait, finalement, est toujours une étude de marché un peu spécialisée pour les DNVP. Quoi.
Ouais.
Alors, j'ai envie de te parler d'Amazon maintenant. Parce que, parmi l'omnicanalité qui vous est caractéristique, Amazon, vous l'avez lancé après 2 mois de commercialisation. Ça a joué une part très importante aussi dans les ventes que vous avez fait suite à Qui veut être mon associé, dont on va parler juste après. Pas forcément pour vous ravir, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer vas-y, présente-nous Amazon.
Bon, Amazon, c'est un site qui a été lancé par un certain Jeff.
Un petit monsieur,
qui s'est dit, tiens, on va vendre des livres. Non, plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on a lancé Amazon très tôt? C'est qu'en fait, c'était mon expérience passée où j'aime l'omnicanalité. Je vais chercher les ventes là où il y en a. Et en vision long terme, Amazon, je le prends un peu comme mon prospecteur, quoi, pas mon éclaireur, on va dire, dans ma vision long terme. Je vais y revenir. Mais en gros, Amazon, c'est quand t'as quelqu'un de bien pour gérer Amazon, ça va vite. Il y a beaucoup de free. À la base, on a commencé avec un free qui s'appelle Tony, qui était chambé. Ensuite, on est passé avec une agence qui s'appelle Omni, qui est incroyable. Et les deux étaient vraiment top. Et je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi je suis passé de l'un à l'autre. Mais déjà, c'est eux qui gèrent Amazon pour nous. Donc moi, en termes de temps, c'est pas énorme. Ça me prend franchement allez, 30 minutes de points avec eux par semaine, plus 30 minutes étalées où je regarde les chiffres, les stats et les trucs qui m'intéressent. Et donc, pourquoi Amazon ? Un, parce que c'est un autre canal où je vais me faire connaître par d'autres gens, où je vais m'adresser à une autre cible, où les gens qui vont chercher des éponges ou des éponges lavables vont me connaître. Et deux, c'est aussi en vision plus long terme, où mon but, c'est quand même de m'internationaliser à un moment et pas dans 8 ans, et que le moyen le plus rapide et efficace de tester un marché, à mon sens, ça reste Amazon. Et donc, aujourd'hui, dans ma vision long terme, Amazon, c'est aussi beaucoup pour ça. Donc, un complément de chiffre d'affaires
okay.
qui n'est pas si complexe que ça à mettre en place si tu as la bonne personne. Et deux, demain, tu peux te lancer dans un autre pays beaucoup plus facilement.
OK. Et alors, vous n'êtes pas encore présent dans d'autres pays ?
Si, on commence à vraiment lancer l'Allemagne, puis on a mis comme ça en vente Italie, Belgique, Espagne, mais c'était vraiment comme ça, histoire de...
D'accord, OK. Ça reste une part minime de votre chiffre d'affaires ?
Ouais.
D'accord.
Okay, mais par contre, on veut vraiment grossir en Allemagne.
OK, d'accord. Et donc aujourd'hui, en Allemagne, c'est Amazon qui vous drive plus que le site D2C ou même chose ?
Ah ouais, non, on fait que Amazon sur
En fait, ça, ton international n'est ouvert qu'avec Amazon.
En fait, si tu veux, mon point de vue, c'est Amazon est gros en Allemagne, le marché Amazon est plus gros en Allemagne qu'en France.
Mm.
Si on n'arrive pas à craquer Amazon Allemagne, pourquoi me lancer en Allemagne tout court ?
D'accord.
C'est un peu un... C'est un test. Et il peut y avoir des raisons. Hein. Peut-être que je peux me planter. Peut-être que ça peut ne pas marcher sur Amazon Allemagne et marcher ailleurs. Mais un vrai lancement dans un autre pays, c'est lourd. C'est-à-dire qu'il faut que tu retravailles un petit peu ton branding. Quoi qu'il arrive, les arguments ne sont pas forcément les mêmes. Il faut que tu traduises tout. Quoi. Je trouve que c'est du taf et ce n'est pas un dollar. Et je me dis, autant d'abord tester sur Amazon où c'est moins coûteux que de me lancer comme ça à tête baissée.
Okay. Et comment tu scales Amazon ? Genre là, typiquement en Allemagne, tu vas attaquer le marché allemand avec Amazon.
Bah déjà, tu bénéficies de ton travail en France parce que les avis...
C'est ça que c'est. En fait, c'est pour ça que je voulais te poser la question là-bas. D'accord.
En fait, c'est les avis. Et puis Amazon, après, tu as ton placement. Je t'avoue, je ne suis pas un expert, ouais. Mais tu as un classement organique aussi. Tu grossis. Je crois que là, par contre, c'est vraiment différencié pays par pays, mais au moins, tu as les avis.
Ouais.
Aujourd'hui, on n'a pas. C'est très long d'avoir beaucoup d'avis sur Amazon. C'est très, 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 très long. Tu vois, aujourd'hui, on doit en être à 180 avis, alors que on doit en être à, je sais pas combien, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire oui, même plus de 100 000. Donc c'est long, mais c'est un gage de confiance pour les gens.
Okay. Est-ce que, en fait, je me pose la question de ce que c'est un canal qui s'accélère. Alors, est-ce que tu peux mettre ton budget ads Amazon et conquérir un marché ou aujourd'hui ça vient du SEO ?
Je pense que ça dépend. Franchement, je pense que ça dépend vachement des marchés. Le truc, c'est qu'un beau cul, par exemple, sur Amazon, je pense très compliqué à vendre.
Ouais.
Et ça serait que de la cannibalisation, parce que ce que les gens cherchent, tapent bidet japonais, je crois que c'est comme ça qu'ils se définissent. Ouais. Je ne pense pas que les gens tapent bidet japonais sur Amazon. Donc ça dépend, il faut qu'il y ait déjà un marché.
Ouais.
Une fois qu'il y a le marché, si tu as un élément différenciant, ça vend. Tu vois, nous, par exemple, il y a un marché sur l'éponge et des éponges lavables, il y en a des tonnes sur Amazon. Des tonnes, mais c'est que du dropshipping. Et que du dropshipping qui est moins cher que nous. Et. Il y a beaucoup plus d'avis que nous. Et pourtant, on les bat tous en termes de chiffre d'affaires parce qu'on vient amener une marque, on vient amener de l'esthétique, on vient donner envie, en fait. Et ça, il y a un autre truc qui est hyper intéressant, mais c'est aussi un truc qui nous a permis d'un peu convaincre la grande distrie de dire, bah, OK, on est petit, OK, on est un peu cher, mais regarde sur Amazon comment ça se passe.
D'accord.
Et Amazon, ça me permet de cocher certaines cases en mode, ça me permet de donner une indication des parts de marché que je pourrais faire. Parce que je sais combien je fais par rapport au petit hérisson, par exemple. Les gens vont dire qu'il est obsédé par cet hérisson. mais ça me permet de me positionner un petit peu sur un marché. Et c'est une carte de visite sur certaines choses. Tu vois, dire, je suis le troisième meilleure vente en termes d'éponge sur Amazon. Ah, ça peut vouloir dire quelque chose.
D'accord. Et donc là, si tu veux scaler l'Allemagne, demain, tu donnes quoi comme instruction à ton équipe ?
Tu mets de l'oseille. Hein. Après, ça reste du digital. Il y a pas mal de liens entre Amazon et l'acquisition digitale pure. C'est juste ce que tu vas faire. C'est pas du méta, mais c'est plus du Google Ads, si je devais vraiment simplifier. Mais tu mets du budget, tu es prêt à ne pas perdre de l'argent les 3 premiers mois pour émerger, pour te faire connaître, pour remonter dans le classement organique d'Amazon et tout ça. Et plus tu remontes dans le classement organique, plus tu baisses ton budget et plus les ventes organiques prennent le relais.
OK. Et à partir du moment de quand est-ce que tu serais confortable de l'attaquer en D2C ? Le marché.
Attends que je dise pas de conneries. Ouais, à partir du moment où on fait 20 ou 30 000 euros par mois, ça commence à être un bon indicateur, je pense.
D'accord. Donc on a parlé de vos canaux principaux, on a parlé de l'Ads, on a parlé d'Amazon, on a parlé du la distrib, enfin de la distrib.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont potentiellement dans votre mix et qu'on aurait oublié?
Il y a les ventes privées, notamment ChooseApp.
Ouais, c'est conséquent.
C'est pas mal, hein. On a fait, tu vois, ChooseApp sur l'année 2022, c'est genre 7-8% de notre chiffre d'affaires sur deux ventes privées. C'est pas dégueu. Ça permet de te faire connaître. Et j'aime bien, moi, ce que j'aime bien, c'est que surtout, ça te permet de donner une autre carte de visite. Et moi, c'est celle que je cite. C'est sur ChooseApp, on a 6-7 000 personnes qui nous ont acheté. On a une note de 4,9 sur 5. Parce qu'en vrai, si on est honnête, tu peux jamais te fier à la note d'un site. Tu sais pas à quel point les gens y mytho ou pas. Par contre, sur un truc comme ChooseApp, tu peux pas mytho. Donc ça, pas mal. Et après, on pourrait s'attaquer à un autre auquel je veux pas m'attaquer, mais où il y aurait beaucoup de chiffres, c'est le B2B. B2B, vendre aux restaurateurs, aux hôtels. On se fait souvent contacter par des gens qui ont des Airbnb en disant, ah tiens, je voudrais mettre mon éponge et tout. Et certains de mes business angels me disent, mais pourquoi t'attaques pas le B2B? C'est juste pour rester focus sur le B2C. Comme tu dis, trois canaux, c'est déjà pas mal, même s'il y en a deux qui nous prennent beaucoup de notre temps. Mais c'est focus B2C, B2C, B2C. Mais B2B, ça pourrait être un très gros marché qu'on a choisi de pas attaquer pour le moment et qu'on attaquera le jour où on sera rentable et qu'on pourra investir vraiment une business unit dedans.
OK. Le plan, vous, pour le futur, c'est... Alors, instinctivement, on pourrait se dire, c'est bon, bah, il faut que j'élargisse ma gamme pour faire grimper mon panier moyen online. Et en fait, c'est là où, d'ailleurs, je te posais la question d'avoir plusieurs canaux. C'est que c'est là où il peut y avoir de la friction, en fait, entre les objectifs grande distrib et les objectifs online. Ou alors, à la fois, tu vas peut-être plus être une marque d'éponge. Du coup, ça va être super pour ton panier moyen online. Ça va être très chiant pour ton distributeur qui va dire, c'est quoi, Inga?
Ouais.
Toi, comment t'as articulé les deux et t'as choisi quoi?
Eh ben, il y a un an. Donc, on a levé des fonds en juin dernier. Et sur mon deck de levée de fonds.
Allez, vas-y. On est vraiment. Je te coupe pour te servir de l'eau, mais vas-y, je t'en prie, continue.
En juin dernier, sur mon deck, il y avait marqué qu'on lancerait des sprays multi-usages et des liquides vaisselle.
Ouais.
Et puis finalement, j'ai dit, quoi, avec l'équipe, on s'est dit non. On va pas lancer ces produits parce qu'on se rend compte que c'est pas les mêmes produits, ça se fait pas de la même manière, c'est compliqué. Est-ce qu'ils seront vraiment plus quali que les autres? Et puis du coup, on serait une marque de quoi? Et en grande distrie, bon, c'est peut-être les mêmes acheteurs, mais bref, trouver ça compliqué et pas clair. Et on s'est dit, en fait, on veut être les meilleurs dans une gamme, éponge, micro, fibre, essuie-tout. C'est déjà pas mal, en vrai. Et on sortira plus de ça. Plus jamais. Alors, en tout cas, plus jamais, pas au moins dans les 3-4 années qui viennent. Mais par contre, on va élargir à fond cette gamme. On va faire tout ce qu'on peut faire en éponge, en essuie-tout et en microfibre.
C'est quoi les évolutions?
Bah, tu vois, aujourd'hui, par exemple, à la base, on avait une seule éponge. Aujourd'hui, on a 4 éponges. Donc, on a l'éponge classique, l'historique, qui a un côté qui essuie, un côté qui gratte. J'aurais dû en amener. On a l'éponge double absorption, qui a donc deux côtés qui essuie, qui est plus faite pour la salle de bain, les toilettes. On a l'éponge plate. Donc ça, c'est une pure innovation où c'est les mêmes matières que l'éponge, mais plus large et tout fin. Ça permet d'aller dans des endroits où tu peux pas aller avec une éponge normale. Ça te permet de faire ta vaisselle comme dans des flûtes à champagne et des coupes. C'est marrant, c'est le produit qui a la meilleure note. Nos éponges sont à 4,8 sur 5, lui à 4,9. Les gens le surkiffent. Et on a lancé une éponge aimantée.
Okay.
Donc, tu as une ventouse et tu colles, quoi, t'aimantes ton éponge. Il y a un côté ludique pour te donner envie. Et deux, ça permet à l'éponge de sécher beaucoup plus vite et donc d'être encore plus hygiénique. Et cette année, on va lancer deux produits dans la gamme essuie-tout microfibre, une nouvelle éponge. On travaille sur une nouvelle matière aussi pour certains de nos produits. Et on va créer pas mal de nouvelles gammes marketées en termes d'éponge. Donc, je dis pas encore quoi, mais on a en gros 6-7 lancements produits cette année prévue dans cet univers et qui toujours répondent à un besoin. Soit efficacité, soit praticité, soit autre usage, soit fun.
Ok. Et c'est des produits qui ont vocation plus à être vendus à des clients existants ou alors de vous ouvrir un nouveau segment?
Ça dépend. Par exemple, la nouvelle éponge qu'on va lancer, évidemment, chaque nouveau produit, tu le vends à tes anciens clients, en tous les cas, t'essayes. Mais par exemple, cette nouvelle éponge, ça va nous permettre de vendre à des professionnels à qui on peut pas vendre ou aussi à répondre à un usage des clients. Moi, demain, tu me dis, est-ce que je peux nettoyer mon barbecue avec ton éponge? Je te dis non, tu vas la défoncer. Alors que tu peux faire tous tes usages, mais en même temps, tu nettoies pas ton éponge avec l'éponge Spontex. J'ai dit le nom. Donc, spoil, on va lancer une éponge pour les barbecues, pour ton four, pour tous les trucs gras, très durs à faire. Donc, et nouveau marché, parce que les professionnels, et surtout, va répondre à un autre usage du quotidien.
Ok. Tu t'es déjà posé sur l'ambition en termes de... Alors, tu nous as dit que dans 7 ans, le but, c'est d'avoir potentiellement un industriel qui est intéressé. Tu as déjà réfléchi en termes de chiffres, ce qui sera un succès pour toi, même sur 2024, 2025, 2026?
L'objectif, c'est de dépasser les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ouais.
Après, succès. Tu connais beaucoup en vrai, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont satisfaits de ce qu'ils font?
Non, mais tu vois, l'industriel, je pense qu'en dessous d'un certain seuil de CA, tu l'intéresses pas, quoi.
Ouais, mais alors moi, il y a plusieurs cases à cocher. Pour moi, il n'y a pas que le CA. Il y a les parts de marché.
Ouais.
Il y a la marque. Je vais pas dire la notoriété, parce qu'en vrai, pour faire une marque B2C vraiment connue, c'est long, c'est très très long, mais l'appréciation de la marque, l'unicité de la marque. Trois, les produits, l'innovation produit, c'est-à-dire des produits uniques et bien meilleurs, c'est game changer. Et quatre, ce que tu peux lui apporter sur un marché ou dans le futur, sur une région, quoi. Tu peux D'accord. ouvrir un marché. Ça peut très bien, je te donne un exemple, hein. Ça peut très bien être... ce qui est intéressant sur l'éponge, c'est que tu prends la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'est pas les mêmes marques. C'est pas les mêmes leaders.
Pourquoi?
Parce que les besoins sont un tout petit peu différents. Tu vois, on aime bien dire chez Inga, il y a 60 millions de Français, 60 millions de manières différentes de faire le ménage. Bah, j'ai envie de te dire, tu as 4 pays, et bah, 4 manières différentes d'utiliser tes éponges. Mais donc, ça peut très bien être... un industriel étranger qui se dit « je veux m'attaquer au marché français », tiens, eux, ils ont déjà un pied dedans, ça peut être. Ça peut très bien être un autre industriel qui se dit « bon, bah, comment je vais faire de la croissance externe ?»« Ah, sur l'éponge, on n'a rien, viens, on va s'attaquer à l'éponge. » Ça peut très bien être celui qui est leader sur l'éponge qui se dit « j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier, allez, je les rachète et ils me font pas chier. » Quoi, tu vois, ça peut être plein de points différents. En fonction de ton racheteur, la raison du rachat va pas forcément être la même, je pense.
Ok. Eh bien, écoute, Benjamin, je crois que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. On refait un petit check. Ça me semble bien. Je vais te poser la toute dernière. Mais non, mais j'ai oublié une dinguerie. J'ai oublié une dinguerie, Benjamin. On n'a pas parlé de qui va être mon associé.
Exactement.
Je suis en ouf.
Ouais. qui en plus est le premier sur. Mais je pense que vu qu'on n'arrête pas de parler, qu'on a parlé de plein de trucs, tu dis OK, les premiers sujets, on a zappé. Et qui va être mon associé? Non.
Je suis un dingo, mais oui, c'est tout récent en plus.
Ouais.
Bon, raconte-nous comment ça s'est passé parce que l'histoire voulait pas.
Alors nous, on a eu beaucoup... En fait, c'est marrant, mais il y a un truc dont les... Je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui t'en parlent, mais le facteur chance. La chance, elle compte dans une boîte. Moi, dans mon ancienne boîte, elle a compté du mauvais côté. Tu vois, j'avais une boîte culturelle. On faisait 50% de notre chiffre d'affaires en décembre et 50% de notre chiffre d'affaires à Paris. On s'est tapé d'abord les grèves qui avaient tout gelé en Île-de-France. Puis 2 mois plus tard, le Covid. Donc, autant dire que le Covid, pour une boîte culturelle, c'était sympa. Facteur chance, il est tombé de notre côté parce que en gros, on a tout donné pour participer à Qui va être mon associé. On avait fait une vidéo de ouf. On a été retenu par une casteuse, mais la directrice de casting a dit non, inintéressant, les boîtes d'éponge, ça intéresse personne, on s'en fout. Donc, on n'avait pas été présenté à la prod. Mmh. Donc, bon, bah, tout ça pour rien. Et puis, en septembre, Dorothée, notre casteuse, m'appelle et me dit « Tu veux toujours faire Qui va être mon associé ?» Je fais « Bah ouais, grave. » Elle me fait « Bah écoute, pendant les vacances... » la sœur de la directrice de casting lui a parlé d'Inga en disant qu'Inga c'était chamé, qu'il fallait absolument que vous fassiez l'émission. Et hier, il y a une boîte qui s'est désistée. Donc, du coup, la directrice de casting, elle s'est dit, peut-être qu'on peut donner sa chance à Inga. Le lendemain, ils ont montré la vidéo à la prod qui a trop kiffé. Le surlendemain, ils ont montré la vidéo à M6 qui a trop kiffé. Ils se sont dit, allez, let's go, vous tournez. Pour des raisons personnelles, je pouvais pas tourner sur les derniers jours de tournage. Ils m'ont dit, tu tournes dans 6 jours. Et en gros, un mardi, il n'y avait pas de Qui va être mon associé. Le mercredi d'après, on tournait Qui va être mon associé. Donc, beaucoup de chance. Mais c'était très grisant parce que on avait 6 jours pour préparer. C'était un kiff, quoi. Ouais. On s'est mis dans un tunnel.
T'as pas le temps de stresser des semaines?
Non. Et l'adrénaline. En fait, l'adrénaline n'est pas retombée et ça, c'était un kiff. Gros, gros kiff.
Ouais.
Et puis après, le jour du plateau, énorme kiff. L'équipe est chamée. Trop sympathique. Moi, je me suis éclaté et j'ai grave kiffé mon passage. J'ai bien rigolé. On s'était beaucoup préparé. On m'a pas mal dit que mon pitch était bien parce que je m'étais beaucoup préparé et que j'ai un passé de comédien, donc ça aide aussi sur scène. Et après, l'autre truc très marrant, c'est le montage. Ça, on m'en avait parlé. À quel point le montage montrait des choses qui... Mais en fait, t'es 43 minutes sur le plateau et t'as un montage de 13-14 minutes. Donc, le montage dit certaines choses qui ne sont pas forcément vraies, entre guillemets, mais vraiment super expérience. Et puis l'après, waouh!
Ouais, vous, ça.
Incroyable. C'est un peu ce que je dis à mes équipes. On a eu en même temps qui va être mon associé le lancement en grande distri. Ce que je leur dis, c'est ce qui est le plus fort à court terme, c'est qui va être mon associé. L'impact court terme, il est incroyable en termes de chiffre d'affaires, d'opportunités, de notoriété. Mais le plus important sur le long terme, c'est l'entrée en grande distri. Parce qu'au final, l'effet qui va être mon associé, je pense, au fur et à mesure des mois et des années, va s'estomper. Et c'est pas ça qui va écrire l'histoire de la boîte. Là où, comment on va marcher en grande distri, va écrire l'histoire de la boîte. Mais à court terme, c'est incroyable. Et ça te permet d'accélérer plein de choses. Ça te crée des opportunités ouf. Tu vois, on a l'acheteur de McDo qui nous a contacté en mode, il s'est dit, en fait, je vous ai vu et je me suis rendu compte que j'avais jamais traité le sujet des éponges.
Tu vas être dans les Happy Meal.
Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est déjà l'acheteur qui, des achats internes.
Ouais.
Mais il dit, en fait, j'ai un budget éponge qui est colossal. Et je me dis, peut-être qu'en fait, je vais acheter vos éponges. Bon, on verra. Mais je serais pas passé à qui va être mon associé. Ouais. J'aurais jamais eu ça. Et du coup, nous, on lui a aussi envoyé des petites idées de goodies qu'on pourrait mettre dans les Happy Meal ou dans tout ça. Donc, on n'a pas perdu le nord.
Ouais.
Mais ouais, c'est...
C'est les Minimondes qui avaient fait ça. Je crois qu'ils avaient une collab.
Ah, ouais ouais. Ah oui, c'est vrai.
Ils une collab.
Cette boîte Minimonde.
Ouais, incroyable.
Ouais. Et en deux mots, voilà. En tout cas, comment on l'a fait. Et oui, quoi, je conseille à toute boîte consumer d'essayer d'aller faire qui va être mon associé.
Ouais. Et parce que tu disais, l'effet va redescendre. Alors, ouais, il redescend en effet. Bon, pour l'avoir vu sur quelques-uns des clients chez Kodak, mais il y a quand même un. Il y a un avant et un après, quoi, sur ces boîtes. C'est-à-dire, la baseline n'est plus la même.
Ah bah non.
De ce que tu fais comme chiffre par mois, etc. T'es plus la même boîte. T'es passé à la télé déjà, tout court. Ça coûtait zéro.
Exactement.
Donc ouais, t'es installé.
Avoir 13 minutes en prime time dédiées à ta boîte, tu connais un truc, une émission qui fait ça?
Ouais, laisse tomber.
C'est fou.
Et t'as pas eu la pub, toi?
Si
t'as eu la pub.
On avait échangé avec une boîte qui était placée avant, avec deux boîtes, et les deux nous ont dit, bon, tu pourras rien faire pour, mais si t'as la pub. Et pour l'anecdote, on était en équipe quand on a regardé, et le passage avant nous avait eu la pub. Et en plus, c'était un truc même pas consumer que tu pouvais acheter sur Internet. On s'est fait, putain, un passage pub pour rien. C'est nul. Ils nous ont gâché notre pub. Et on savait qu'on allait être après. On s'est fait, on n'aura pas la pub. On était deg. Et là, passage, et bam, pause, pub. On a sauté. C'est-à-dire, genre, tu vois comment tu cries quand la France, a marqué en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Les mêmes cris de joie. Genre vraiment, c'était une victoire d'avoir la pub. Et là, on regardait de Shopify. On faisait 3000 euros par minute.
Wow.
C'est fou. Incroyable.
Ouais, parce que c'est ça. Bon, en fait, les gens, pour nos auditeurs qui comprendraient pas, pardon, de quoi on parle, c'est que de la pub, ça laisse le temps aux gens d'acheter, en fait. Ils viennent de voir un truc. Tiens, je vais prendre la carte bleue, me rendre sur Internet. Et donc, c'est hyper game changer sur les chiffres après le passage.
Ah ouais.
Ok. Écoute, je crois que moi, cette fois-ci, c'est vraiment la fin.
Eh ben, c'était un plaisir.
Écoute, je vais te poser la toute dernière question, pardon, de ce podcast, dont je t'ai pas parlé avant d'ailleurs, donc totalement oublié dans la préparation, mais tu vas voir, elle est pas très dure. C'est, est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance?
Une marque e-commerce dont...
Alors, je pense qu'on peut élargir. Ne prends pas le e-commerce au pied de la lettre.
Si, il y en a deux. Je vais en citer deux. Kabaya.
Ouais.
C'est hyper original, tu vas me dire. Non, Kabaya, c'est fort, c'est tout est là. En fait, tu vois. Belle marque, bonne marge, multicanal, voilà. Et Unbottled.
Ouais.
Pourquoi Unbottled? Eh ben, ils vendent un savon, ils vendent un gel, quoi, ils vendent des produits qui existent. Ils ont ajouté un aimant, mais en fait, tout ce qu'ils font, ils le font à la perfection, je trouve. C'est l'exécution. Leurs boutiques sont belles, tout est léché, quoi. En fait, c'est vraiment l'excellence dans l'exécution que je trouve incroyable à tout niveau. Hein. La marque, la logistique, tout. Donc je dirais Unbottled pour c'est de l'excellence, vraiment c'est de l'orfèvrerie avec un produit du quotidien et du consumer, je trouve.
C'est noté. Écoute, merci pour ton passage et cette heure passée ensemble.
Merci à toi.
On va dire au revoir à nos auditeurs et leur donner rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode des Brut e-commerce. Ciao à tous.